Le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel. Premier épisode, le mois d'août de l'an 2006 selon Nicolas Lévesque. Ce qui m'a le plus frappé dans ce mois de guerre, c'est notre prétention occidentale et encore plus peut-être nord-américaine à la réalité. Comme si nous avions le besoin de projeter à l'extérieur le croyant, le dupe. Ils sont fous, ces Allemands, ces nazis, ces islamistes radicaux, ces fanatiques. Ces Israéliens, ces Hezbollah. Comme si, dans notre culture occidentale, nous avions besoin de la figure de l'autre croyant, de la mettre à l'extérieur, pour se croire évidemment dans une réalité pure, qui n'est au fond qu'une autre croyance, qu'une autre idole. Et n'est-ce pas cette réalité notre voile? C'est-à-dire l'incroyable retour du refoulé religieux sous cette figure de la réalité, de l'information, des faits. N'est-ce pas, au fond, le même interdit de séduire? Car c'est là que nous sommes encore profondément religieux, et peut-être encore plus profondément, puisque nous ne le savons pas. Cet interdit de séduire n'est pas un voile en tissu, mais c'est bien un voile idéologique, une sorte d'interdit de séduire qui fait que, pour une démocratie occidentale, l'idéal est d'être gouverné par l'argent, les machines, la science, des statistiques, surtout aucun être humain, aucun jugement humain, puisque le jugement humain, on le sait, est faible, est humain, et donc passible d'être séduit, et de séduire surtout. On peut comprendre qu'on ait peur de cette séduction, on peut moins comprendre pourquoi nous sommes rendus à nous faire croire qu'elle n'existe plus. Alors que cette séduction, c'est notre condition humaine même, nous serons toujours entre humains, par des humains, avec des humains. Et plus nous nions cette séduction au cœur de la démocratie occidentale, plus elle reviendra par toutes les voies, comme tous les retours du refoulé le font. On dirait même que la vie occidentale n'est devenue que séduction, c'est-à-dire être un pan. Quelle est ma valeur? Quelles sont les couleurs de mon plumage? M'as-tu vu? Évidemment, on essaie de se faire voir, peut-être parce qu'on se demande si on existe, peut-être aussi parce qu'on a perdu le regard de Dieu, mais certainement aussi que tout cela est lié à cet interdit de séduire qui est au cœur des idéaux de nos institutions. Par exemple, il faudra tout à fait se demander si l'idée même d'être entre frères, qui était liée à plusieurs révolutions, et à l'idée même de la démocratie, c'est-à-dire l'idée du meurtre du chef, du meurtre du père, et donc d'être dans une fraternité, si cette idée tient le coup. Car au fond, c'est l'idée de n'être soumis à aucune autorité. C'est une autorité partagée, mais c'est aussi un refus, je crois, peut-être, d'être sous influence, c'est-à-dire aussi d'être séduit. Et autant il y a une lucidité dans le refus d'être séduit, autant il y a une naïveté, au sens où même ce qui se prétend comme non-séducteur, comme des faits, finit par séduire. Et donc, nous sommes devant un heureux problème, c'est que nous devrons toujours en découdre avec le rapport de l'homme à la séduction, au désir, et qu'il n'y a aucun moyen de faire abstraction de cet état de fait. N'est-il pas franchement surprenant que l'on croit à ce point, par exemple, au vote? On nous répète sans cesse qu'il est important de voter, ce qui est vrai. Mais en même temps, tous ceux qui ont un peu vécu savent bien que ce n'est pas en sachant ce que les gens demandent que l'on sait ce qu'ils désirent. Ça a été aussi le mois d'un orage absolument violent. Et c'est peut-être cet orage qui m'a révélé le plus quelque chose de moi, du monde, de l'impossible, du dehors, mais aussi et surtout de la violence. Puisque cet orage, ces éclairs, cette lumière qui venait surprendre la nuit, ce flash, ces flashs répétitifs, tout à fait violents, ces boules de feu aussi qui ont habité le ciel momentanément étaient à la fois violents, terriblement violents et excitants, je dois bien l'avouer. Dans cette peur, il y a aussi une excitation, quelque chose qui vient nous excéder, nous dépasser. Et cela m'a enseigné, je crois, quelque chose de mon rapport à la violence, de notre rapport à la violence. Pourquoi avoir autant d'attention dans les nouvelles, par exemple, à la guerre, à toutes les guerres? Évidemment, on dira que c'est une question sotte, que c'est la chose la plus importante. Et pourtant, je me dis que quelque chose là doit être dû au fait que quelque chose nous excite dans la guerre. Ce qui est évidemment assez subversif. Idéalement, on ne peut qu'être contre la guerre, n'y voir aucun désir, aucun fantasme. Et pourtant, quiconque y a réfléchi sait bien que dans toute activité humaine, il y a une part de désir, une part de fantasme, une part de libido. Et on comprendra évidemment mon parti pris psychanalytique envers l'actualité. Je me suis demandé par exemple pendant ce mois d'août pourquoi si peu d'attention au fond à l'incroyable drame que subissent toutes les victimes du sida à travers le monde. Parce que le mois d'août dernier a aussi été le mois du sida, de l'absence de Stephen Harper au sida, à tous ceux qui en sont victimes dans le monde, et c'est une violence qu'on pourrait dire indirecte, qui passe moins bien évidemment aux nouvelles, car les sidatiques, par exemple africains, mais partout dans le monde, et particulièrement dans le tiers-monde, ne se battent pas contre un ennemi en chair et en os. Ils se battent contre une violence qui n'a pas de visage humain, du moins en apparence. Une violence anonyme, violence du corps, violence de la nature, croit-on, mais évidemment violence politique, violence des hommes sur les hommes. Et c'est laissé pour compte. Pourquoi, justement, les laissons pour compte à ce point dans les journaux, dans les nouvelles, etc.? Bien, je crois que c'est surtout parce que nous aimons beaucoup mettre un visage sur l'adversaire, nous battre contre quelqu'un d'identifiable. Et dans les guerres, il y a un affront identifiable entre deux parties. Et c'est peut-être ce qui nous excite autant. De la guerre, comme du sport d'ailleurs, parce qu'il y a cet affront entre deux entités que l'on peut cerner, que l'on peut voir. Alors que pour la plupart des choses dans notre vie, l'adversaire n'est pas identifiable. On se bat contre on ne sait trop quoi. Et c'est alors que le spectateur devient un peu comme cet Achab dans le Moby Dick de Melville, qui devient presque fou d'extase et en même temps de délire, en pouvant identifier le mal lui-même, à travers cette baleine majestueuse qu'est Moby Dick, l'affront devient finalement possible. Et peut-être que tous les meurtres, qu'ils soient individuels ou collectifs, procèdent de cette manière. Tout d'un coup, le mal se réunit sous une identité, sous un visage, sous un peuple. Il est alors possible de frapper en plein cœur ceux qui nous résistent. Alors que chacun le sait pour sa vie intérieure et individuelle, on ne peut jamais frapper directement ce qui fait problème. La psychanalyse m'a enseigné, pas toute la psychanalyse, mais une certaine psychanalyse m'a enseigné qu'il n'y a pas de bon ou de mal à la base. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pulsion. Il n'y a pas à la base l'amour et la haine, comme l'a déjà pensé par exemple Melanie Klein, mais bien l'altérité, l'inconnu, l'immaîtrisable, ce qui nous échappe. Et c'est cela qui est à l'origine. Et donc, il faut se mettre, je crois, s'inscrire en faux contre l'idée d'un originaire haineux ou agressif ou mauvais. Ce qui me fait dire que c'est un peu le côté humain que l'on doit voir dans tout ce qui paraît méchant, dans tout ce qui détruit. Car bien sûr qu'il y a du monstrueux dans l'humain, mais il y a aussi de l'humain dans le monstrueux. Et c'est, je crois, ce rapport à l'altérité qui réunit autant le vertueux que celui qui porte le vice. Et c'est dans ce plaisir, je dirais, que j'ai pris à la violence de cet orage, qui est aussi un plaisir esthétique, bien sûr, mais aussi plaisir de ne pas savoir à quoi j'ai affaire dans cet orage violent, dans ces éclairs, dans quelque chose qui me dépasse, dans quelque chose qui m'excite, qui excite ma curiosité, qui représente l'inconnu, l'excès, l'immaîtrisable, l'inconnaissable. Et j'ai eu la même expérience en regardant, pendant ce mois d'août, mon fils jouer avec des blocs, des tours de blocs, mais c'était aussi, c'est souvent des tours de n'importe quoi, de Lego, de cubes, de nourriture. Et en voyant son plaisir à les défaire, ces tours, à les faire tomber, à dire « tomber » en les faisant tomber, en voyant ma fille défaire tous les châteaux de sable qu'elle voit, à barbouiller les dessins, les siens, ceux des autres. Quel plaisir immense à défaire, à démolir. Et tout cela m'a donné plusieurs émotions étranges. Autant j'ai retrouvé mon propre plaisir d'enfant à détruire. Et des images me sont venues, comme celle de la piñata, de ces fêtes d'enfants où l'on frappe à qui mieux sur des animaux et où les bonbons viennent de l'ouverture créé par la blessure qu'on inflige à cet animal festif. Et donc, ce mélange du plaisir d'enfant avec la destruction. Ce qui m'a amené à penser à plusieurs choses. Tout d'abord que, par exemple, en ce qui consiste au Québec, particulièrement dans le combat contre la déforestation, tous les combats que l'on mène pour sauver l'environnement, je crois qu'il faut voir qu'on a affaire à plus qu'un capitalisme, mais bien à ce qui anime peut-être ce capitalisme plus profondément, aux pulsions dans lesquelles il puise. Et c'est peut-être ce plaisir de l'humain à défaire, à enlever, à démolir, à arracher, à démantibuler, à décomposer les choses. Par exemple, je crois qu'il a été bon pour moi de retrouver certains souvenirs d'enfance, car quand on pense à des choses comme la guerre, on essaie toujours d'y penser comme si c'était à l'extérieur de nous. Alors que j'ai retrouvé en moi des souvenirs tout à fait proches de la guerre, comme ce souvenir d'avoir fait exploser une grenouille, littéralement, avec quelques petits garçons du coin. C'était dans un de mes étés de jeunesse, probablement un mois d'août. Et ça m'a profondément marqué, car j'étais complice de cette explosion et j'ai ressenti un grand plaisir. Et même en y pensant aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup. Et ça me rappelle aussi le plaisir que j'avais à casser mes vieux jouets, à les faire exploser aussi, mais d'une autre manière, en frappant dessus, en essayant de voir tous les mécanismes qu'il y a dans les jouets. Et je crois que tous les enfants ont cet intérêt de voir comment c'est fait. Et la violence peut donc s'interpréter ainsi, un peu comme une quête de savoir, et peut-être que la destruction est une des formes de la curiosité humaine. Par exemple, dans la torture, dans la violence de l'interrogatoire aussi, est-ce que c'est pas pour faire sortir l'énigme de l'autre qu'on le torture, qu'on le fait souffrir, qu'on lui fait violence? Un peu comme ces machines dans lesquelles tout le monde a déjà donné un violent coup de pied parce qu'elles ne donnaient pas le change. Je suis même allé jusqu'à me souvenir d'un élan raciste que j'avais eu très jeune, comme beaucoup d'enfants en ont dans les cours d'école. Je me rappelle d'avoir participé à ces farces tout à fait honteuses que l'on faisait sur les Chinois à mon école primaire. Et en y repensant, c'était probablement d'ailleurs des Vietnamiens. Et d'ailleurs, le mot chinois pour nous résumait seulement une couleur de peau. C'est déjà dire la violence de cette réduction, de cette généralité. Et je me rappelle que, justement, ils étaient quelques-uns à mon école primaire à être bons à l'école, souvent silencieux. Et c'était aussi, d'ailleurs, les seuls que je n'arrivais pas à battre au ping-pong, ce qui était déjà un sérieux problème pour moi. Je me rappelle aussi que c'était dans une période où j'étais baigné de bandes dessinées Bob Moran, ou avec le péril jaune et toute cette espèce de paranoïa envers l'Asie, comme l'ennemi ou celui qui fait peur. Et je me rappelle que ce qui était le plus violent, au fond, c'est qu'on avait vraiment l'impression que les quelques Chinois ou Vietnamiens étaient tous pareils. Et au fond, et on les traitait comme s'ils étaient tous pareils, il y avait trop d'énigmes pour nous. Nous étions incapables de tolérer l'énigme qu'ils représentaient pour nous. Et peut-être aussi une certaine jalousie, une certaine idéalisation. Et je crois qu'on leur faisait violence, que je leur faisais violence, pour savoir au fond de quoi ils étaient faits, pour les forcer à réagir. Je me dis que les adolescents sont souvent violents avec leurs parents, probablement pour voir de quoi ils sont faits. De quel bois ils se chauffent, dit-on, parfois. Et dans ma pratique de psychologue, je vois aussi très souvent le lien entre cette hostilité profonde et la part qui s'adresse au coin le plus sombre des parents, au coin le moins accessible des parents, ce coin où ils ont fermé la porte, non seulement à leurs enfants, mais probablement aussi à eux-mêmes. Et c'est toujours à cette porte que les enfants frappent, cognent. Sans cesse, attendant qu'elle ouvre, étant de plus en plus violent à mesure que la porte se referme à double tour, à triple tour. Et souvent, dans la violence en général, on ne retient que la porte défoncée, le crime, le délit, la violence, l'agressivité, et on oublie ce qu'il y avait derrière, d'abord, le désir d'ouvrir une porte. D'aller voir derrière. On dit qu'on ne montre pas les suicides à la télévision pour pas encourager d'autres jeunes ou peu importe l'âge des suicidaires à se suicider. Mais il y a aussi d'autres raisons à cela. C'est qu'entre autres, l'adversaire n'existe pas, visuellement. Et aussi, parce qu'au fond, on ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière un tel geste. On a peur de savoir ce qu'il y a derrière un tel geste. Et par exemple, pourrait-on y trouver cette idée qu'il y a des suicides, certains suicides, où au fond, cet être humain devient sage comme une image, comme ces images que l'on retrouve sur les tombes. Un être humain qui ne devient qu'une image, qui disparaît dans l'image. Et souvent, on a l'impression que quelqu'un qui se suicide met fin à sa vie. Mais au fond, c'est souvent pour mettre en acte une vie qui n'est déjà pas existante. Pour mettre en acte une inexistence. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est de faire exister une inexistence, d'amener à la vie une mort intérieure. C'est un peu comme si on nous disait, comme si le suicidaire nous disait, « Je voulais vous montrer que je ne vis pas. » C'est pourquoi, pendant ce mois d'août, j'ai dit à quelqu'un devant moi, « Je vois bien que tu n'existes pas. »